C'est étonnant, non? Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler d'antagonisme célèbre. Quelle que soit l'époque qu'on parcourt, on trouve toujours des antagonismes entre deux personnages principaux. Ça peut être à propos d'art, de peinture, de musique, de politique, de sport, bien sûr. On a tous son champion. On préfère l'un, on préfère l'autre. Je vais vous parler de ces antagonismes et je vais commencer par un des plus célèbres, De Gaulle et Churchill. On peut présumer, sans être spécialement malin, que De Gaulle et Churchill ne s'aimaient pas beaucoup. Ils avaient tous les deux beaucoup d'esprit, et on a récupéré quelques anecdotes les concernant. Un jour, De Gaulle est invité à une soirée, à Londres bien entendu, et Churchill arrive en même temps que lui. Alors Churchill était un homme qui aimait être élégant, qui était toujours très bien mis, très bien coiffé, parfumé, et De Gaulle fait une petite remarque sur cette tenue qu'il juge un peu inadéquate. Et Churchill lui répond du tac au tac: « Vous savez, mon général, tout le monde ne peut pas s'habiller comme le soldat inconnu. » Une autre fois, Churchill est chez lui, il doit avoir un rendez-vous avec De Gaulle, et arrive l'ordonnance de celui-ci, qui lui fixe un rendez-vous pour le lendemain à 8h. Churchill grommelle entre ses dents: « 8h, pourquoi pas 7h? On aurait pu prendre notre douche ensemble. »
Up to mighty London came an Irishman one day. As the streets are paved with culture, everyone was gay. Singing songs of Piccadilly, standing in Leicester Square. Till Fanny got excited, then he shouted to them there. It's a long way to Tipperary. It's a long way to go. It's a long way to Tipperary. To the sweetest girl I know.
Au XIXe siècle, les deux grands concurrents compositeurs d'opéra sont l'un allemand, Richard Wagner, l'autre italien, Giuseppe Verdi. Ils représentent chacun une tendance particulière. L'un représente l'Italie, le bel canto, l'autre représente le germanisme. On est plutôt dans Le Seigneur des Anneaux, quelque chose de ce genre de mythologie. Ils sont nés la même année, en 1813. Wagner est né le 1er, le 22 mai. Verdi est né le 10 octobre. Wagner quittera ce monde en 1883. Il a 70 ans. Verdi presque 20 ans après, au tout début du XXe siècle, en 1901. Alors, un personnage était assez mal placé entre ces deux rivalités. Il s'agissait de Franz Liszt. Franz Liszt, pianiste, chef d'orchestre, compositeur, très grand musicien. Franz Liszt était le beau-père de Wagner, puisque Wagner avait épousé la plus jeune de ses filles, Cosima. Verdi et Wagner ne se sont jamais rencontrés. Et Liszt a soutenu très fort la musique de Wagner. Il a même assuré la création de plusieurs de ses opéras. En revanche, il a livré un nombre incalculable de paraphrases, c'est-à-dire de morceaux où on reprend les thèmes, sur les opéras de Verdi. Très souvent, dans les personnages antagonistes, comme ça, quelles que soient les époques, il y a déjà des différences physiques. C'est le cas pour Wagner et Verdi, puisque Wagner n'excédait pas le 1,66 m et Verdi mesurait plus d'1,80 m. Wagner avait le don de se fâcher avec une centaine de personnes en un quart d'heure, alors que Verdi était aimé de tout le monde, des musiciens, des cantatrices, des gens qui lui ont commandé des opéras, et tutti quanti. En ce qui concerne les deux personnages suivants, Michel-Ange et Léonard de Vinci, on a également quelque chose de ce type. Alors Michel-Ange, effectivement, n'atteint pas le 1,60 m, alors que Léonard de Vinci mesure plus d'1,95 m. Ils sont nés tous les deux aux environs de Florence. Michel-Ange est né à Caprese, c'est une des villes satellites, Et Léonard est né à Vinci, et effectivement, ça, tout le monde le sait. Même si on associe souvent ces deux personnages, ils sont séparés de plus de 20 ans, puisque Léonard est né en 1452, Michel-Ange est né 23 ans après, ce qui n'est pas rien. Leur situation familiale est différente. Léonard de Vinci est un enfant naturel. Son père est notaire et sa mère est une magnifique paysanne. Son père lui assurera quelques études, mais là c'est pareil, la différence est importante, parce que Léonard ira dans une école, on va dire, de deuxième zone. Il apprendra les mathématiques, les sciences physiques, mais il est notoire qu'il faisait toujours des fautes d'orthographe. Alors que chacun n'a aucun doute sur le génie qui animait cet homme, génie d'inventivité et génie artistique. Michel-Ange, lui, naît dans une famille de patriciens, c'est-à-dire de notables. En revanche, son père, qui est magistrat, est en difficulté financière au moment où Michel-Ange naît, ce qui aura effectivement une influence sur sa destinée. Cet homme va accepter la charge de podestat dans un petit territoire de Florence, qui est une des charges les moins importantes et les moins en vue. Mais c'est la seule chose qu'il a trouvée pour sauver sa famille, avec le revenu de quelques fermages, ce qui ne représentait pas grand-chose. L'œuvre de Michel-Ange et l'œuvre de Léonard est diverse. Alors évidemment, on les place sur le plan artistique. Sur le plan artistique, ils sont tous les deux extraordinaires. Alors il est vrai que si tous les deux travaillent la sculpture et la peinture, on se souvient de Michel-Ange comme peintre et aussi comme sculpteur, avec ce fameux David, cette statue qui a défié le temps, qui est complètement extraordinaire, qui a été exposée longtemps à Florence. Léonard est connu comme ingénieur, comme urbaniste, comme technicien militaire, mais Michel-Ange a aussi fait des choses architecturales, et ils avaient tous les deux un point commun que j'ai déjà évoqué dans une précédente chronique, c'est qu'ils ne finissaient rien. Ils se détestaient cordialement, enfin c'est surtout Léonard qui détestait Michel-Ange, parce qu'on lui a confié plusieurs chantiers qu'il aurait bien aimé qu'on lui confiât. Mais ça n'a pas été le cas, parce qu'il avait déjà la réputation de ne rien finir. Il faut savoir que, quand il a travaillé sur la Sixtine, Michel-Ange en fait s'est ruiné la santé. Même si c'était un homme de petite taille, on avait décidé que la fresque serait faite en direct, alors que dans beaucoup d'endroits, les fresques sur les murs étaient faites en direct, mais celles qui étaient faites au plafond, on les faisait dans un atelier, et après, avec un système d'échafaudage et de poulies, on les emmenait là où on devait les emmener. Ça n'a pas été le cas pour la chapelle Sixtine. C'est quelque chose de très élevé, il a fallu faire un échafaudage compliqué, et Michel-Ange s'y est vraiment fait beaucoup de mal. Cela ne l'a pas empêché de mourir à 88 ans, alors que Léonard, lui, n'a pas passé les 70, puisqu'il est décédé en France, à Amboise, à 67 ans. Quand il s'agit de se détester, il n'y a pas de sexe qui compte, il y a autant d'antagonisme féminin que d'antagonisme masculin. on va changer d'époque, puisqu'on va se retrouver au XXe siècle, pour parler de deux chanteuses qui sont très différentes, elles ont 2 ans d'écart. Il s'agit de France Gall et de Véronique Sanson. Leur parcours est différent, leurs parents sont différents également. Donc Véronique Sanson est d'origine juive, ses parents se sont connus dans la Résistance en fait, et son père a fait une carrière politique. René Sanson, il a été député de Paris de 58 à 67, ce qui représente quand même presque 10 ans. Ils se sont mariés en 45, juste après la Libération. Ils ont eu 2 filles, et pour célébrer la victoire de la France sur l'Allemagne nazie, ils ont prénommé leurs 2 filles avec une initiale V. Violaine et Véronique. Violaine est née en 47 et Véronique en 49. Les 2 filles Sanson commencent le piano toutes les 2. Elles sont plutôt brillantes, c'est le moins qu'on puisse dire. France Gall, elle, est fille de musicien. Son père est compositeur. Il a écrit des chansons pour des gens très célèbres, Edith Piaf, entre autres. France Gall va faire un petit peu de piano et de guitare, mais les 2 talents instrumentaux des 2 femmes sont tout à fait différents. Véronique Sanson va rencontrer Michel Berger, elle a 18 ans, parce qu'il est à l'époque directeur d'un label, déjà très jeune. Il va devenir son compagnon, il va produire un de ses disques. C'est lui qui aura signé d'ailleurs tous les arrangements. Et ils vont se séparer ensuite après, quand elle va rencontrer ce musicien britannique qui était complètement fou, qui va la frapper, qui va essayer de la mutiler, qui passait son temps shooté. Enfin bon, c'était une histoire terrible. France Gall va rencontrer Michel Berger après, beaucoup plus tard. Il s'est remis de la rupture, qu'il a eu du mal. Il avait fait un album sur lequel il avait inscrit un cœur brisé après sa rupture avec Véronique Sanson. Et il avait eu beaucoup de mal à s'en remettre. Ça a été une relation beaucoup plus sage, entre guillemets. Mais ils ont eu quand même 2 enfants ensemble. Et c'est ce qu'a fait remarquer France Gall à Véronique Sanson, en lui disant que globalement, elle n'avait pas véritablement connu Michel Berger.
a comme un goût amer en nous. Comme un goût de poussière dans tout. Et la colère qui nous suit partout. Il y a des silences qui disent beaucoup. Plus que tous les mots qu'on avoue. Et toutes ces questions qui ne tiennent pas debout. Comme des enfants, mais pas comme avant.
Les antagonismes sont souvent créés et alimentés par des personnes extérieures. Les journalistes sont les grands spécialistes de cela. Forcément, comme on dit, ça fait vendre. Eddie Mitchell, Johnny Hallyday. Eddie Mitchell et Johnny Hallyday se ressemblent quelque part en étant foncièrement différents. Physiquement, ils sont tous les deux des hommes d'assez grande taille, 4 cm d'écart, en faveur de Johnny qui fait 1m85. Ils sont nés à un an d'écart. Eddie Mitchell est plus âgé. Il est né en 1942 et Johnny était né en 1943. Ce sont les deux plus grands rockers français, avec des personnalités immenses. Bon, chacun dans son style. Il y a chez eux une grande amitié, déjà, qui se sont côtoyés pendant 50 ans, et pourtant ça avait bien mal démarré. À la première fois qu'ils s'étaient vus, c'était soi-disant dans une soirée, alors on a plusieurs versions, hein. On ne sait jamais ça exactement, où Johnny aurait piqué un ou deux disques aux gens qui étaient là. Et visiblement, Eddie Mitchell lui aurait même mis une tarte. Et ça commençait fort. Ils ont failli par se battre. Par la suite, ils se sont soutenus souvent. Et Eddie Mitchell, dans le livre qu'il a écrit, dans le dernier, c'est une grosse autobiographie, raconte qu'en fait, Johnny ne s'est jamais remis d'avoir été un artiste et une vedette. Ça l'a aidé, pour utiliser les propres mots d'Eddie Mitchell, à bousiller sa vie. C'est-à-dire qu'il n'a pas levé le pied, chose qu'a fait un peu Eddie Mitchell, c'est-à-dire un peu moins picoler, faire un peu moins de choses. Et visiblement, on ne peut pas dire que Johnny ait pris un soin essentiel de sa santé. Il n'en reste pas moins, l'un comme l'autre, deux phares dans l'histoire du rock français.
Sur la route de Memphis, sur la route de Memphis. Et la radio me vantait un truc débile qui m'endormait. Sur la route de Memphis, sur la route de Memphis. Je viens vers toi, tu m'attends dans ta route. Blanche. L'amour en province ressemble un peu à du manche. Sur le siège avant, le chauffeur buvait de la bière en regardant l'heure. Sur la route de Memphis, sur la route de Memphis. À la place du mort, un chien loup me jetait un regard un peu fou. Sur la route de Memphis, sur la route de Memphis. Je viens vers toi, mais pas dans une Rolls blanche. Dans un costume, un cheveux et les mains aux manches. J'ai le droit de me taire et fumer en gardant mes menottes au poignet sur la route de Memphis. Sur la route de Memphis. Pour une fois, les flics ont gagné. Vers chez toi, je ne fais que passer sur la route de Memphis. 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 Sur la route de
Memphis. Souvenir, souvenir, je vous retrouve en mon cœur et vous faites refleurir tous mes rêves de bonheur. Je me souviens des soirs de danse, joue contre joue, des rendez-vous de nos vacances quand nous faisions les fous. Souvenir, souvenir de nos beaux jours de l'été lorsque nous partions cueillir mille fleurs, mille baisers. Et pour mieux garder dans ma tête les joies de la belle saison. Souvenir, souvenir, il me reste nos chansons. Des départs dans le matin où le soleil semblait rire tout le long de nos chemins. Nous n'avions au fond de nos poches qu'un peu d'espoir, mais nous partions comme Gavroche, le cœur assez bavard. Souvenir, souvenir, pour revenir dans ma vie, illuminant l'avenir lorsque mon ciel est trop gris. Et pourtant ça j'en suis certain. Souvenir, souvenir, vous resterez mes copains.
S'il est une chose qu'on ne suit plus beaucoup en France, et c'est bien dommage, c'est le Tour de France cycliste. Avant les années 80, on n'imagine pas ce qu'était cet événement, la mobilisation des villages et des communes pour le passage du Tour, avec la caravane avant qui distribuait des cadeaux et tout un tas de choses que les enfants, qui ont maintenant 70 ans, n'oublient pas. Et s'il était une rivalité très célèbre dans les années 60, c'était celle entre Anquetil et Poulidor. Alors Raymond Poulidor a laissé son nom à une expression, l'éternel second. Raymond Poulidor n'a jamais gagné le Tour de France, alors qu'Anquetil l'a gagné 5 fois. Il y a eu un moment absolument extraordinaire, c'est en 1964. Alors en 1964, le Tour de France a une équipe de montagne particulièrement sévère dans le Puy-de-Dôme. Pour qui connaît l'Auvergne, même si l'Auvergne a une réputation de moyenne montagne, en vélo ce n'est pas véritablement la même chose. Alors à un moment, les Espagnols qui sont de super grimpeurs, notamment celui qui va gagner l'étape qui s'appelait Federico Bahamontes, l'aigle de Tolède, va gagner l'étape. Derrière, un Espagnol suit, et en troisième et quatrième position, on trouve Raymond Poulidor et Anquetil. Et alors Raymond Poulidor, très peu avant la fin de l'étape, place une attaque, et ma foi, récupère son retard sur Anquetil, puisqu'il était deuxième au classement général, et il se retrouve à 14 secondes de lui. Il va perdre le Tour de France à cause de ses 14 secondes. 15 ans plus tard, ils participent tous les deux à une émission de télévision et un journaliste pose la question à Jacques Anquetil. Jacques, ce fameux tour de 1964, si Raymond avait attaqué une heure avant, est-ce que vous auriez pu suivre? Et Anquetil de répondre, certainement pas, j'étais déjà lessivé.
C'est étonnant, non?